Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Point de vue, le magazine de Radio Grand Ciel, dont l'objectif premier est de vous chatouiller les cellules grises, de vous les escagasser en les gavant de grains à moudre, bref, de vous empêcher de tomber dans le sommeil sans fond de la pensée unique. Le sujet du jour, choisi collégialement à l'issue d'une terrible empoignade dans l'arrière-boutique de la librairie L'Esperluette, n'est autre que l'ennui. Pour en débattre, de redoutables prêteurs, Olivier Lostis, libraire et psychanalyste, Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste jungien, puis, last but not least, Gabriel Seban, psychosociologue et faiseur d'histoire. Il nous en comptera une en cours d'émission. Cette émission n'est pas réalisée en public, contrairement aux habitudes. Il faisait froid dehors. Et
on avait peur de les ennuyer, peut-être.
On a peut-être peur de les ennuyer avec l'ennui, c'est vrai. Alors, rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide incontinent. Il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. C'est pas du Cioran, c'est du Blaise Pascal. Extrait des pensées, publié en 1670, c'est dire si l'ennui n'est pas spécialement d'aujourd'hui. On s'est toujours ennuyé, l'ennui est dans la pâte humide comme le ver est dans le fruit. Est-ce que vous en êtes d'accord, chers amis?
Quand je regarde mon chat, je me dis que ouais, c'est un chat qui ne s'ennuie pas, parce que c'est une chatte, en l'occurrence, elle ne fait rien. Elle sait ne rien faire, c'est formidable ça. Je ne sais pas si elle pense, je ne sais pas si elle médite, mais elle sait ne rien faire. Et le truc, c'est est-ce que nous savons ne rien faire, par exemple? Est-ce qu'on se retrouve sans rien à faire, on y arrive sans ennui, ouais, justement? C'est-à-dire que si on s'ennuie, on n'y arrive pas bien, en fait. C'est un peu ça, le point.
Mais ne rien faire, c'est encore faire quelque chose. Exemple, la méditation. Est-ce que tu estimes que c'est ne rien faire?
Je crois pas, non. Je ne pense pas.
Non. Donc, en fait, ne rien faire, c'est avoir l'apparence de ne pas bouger, de ne pas se déplacer, mais mentalement, l'univers qui est derrière nous ou au-dessus de nous, je ne sais pas, est plein d'obscurité, d'opacité, de dynamisme, je ne sais. Alors, la question vaut. Est-ce que finalement, l'ennui est quelque chose qui a une spécificité humaine? Mais je ne sais pas répondre à cette question.
Peut-être ce qu'on peut dire quand même, c'est que globalement, l'ennui, ça a une coloration négative. C'est quand même ça qui est le problème, au fond. Et d'ailleurs, il y a plein de verbes qu'on utilise où on se dit on va se débrouiller pour ne pas s'ennuyer, il faut combattre l'ennui, il faut lutter contre l'ennui, il faut gérer son ennui, ou il faut intégrer la possibilité d'avoir un temps d'ennui. Enfin, il y a beaucoup de verbes comme ça. Et puis, il y a des tas de mots qui sont aussi associés à ça. On s'ennuie, c'est aussi on se fait chier quand même.
Oui, hein.
Donc c'est quand même associé à quelque chose qui est de l'ordre de l'élimination. Même si, au fond, chier est quelque chose qui est absolument indispensable, sur le plan concret et sur le plan psychique, hein, c'est comment on gère, au fond, toutes les choses négatives qui restent par rapport à tout ce qu'on vit, à ce qu'on ingère, sur le plan concret et sur le plan psychique. Mais quand même, s'ennuyer, c'est quand même quelque chose qui est vécu très négativement.
Oui. Je prends la définition du Larousse, là, j'étais Pascal, mais plus prosaïquement, le Larousse évoque à propos de l'ennui une lassitude morale, une impression de vide engendrant la mélancolie, tout cela étant le produit du désœuvrement, du manque d'intérêt et de la monotonie. Est-ce que c'est absolument lié à la monotonie? On peut aussi s'ennuyer à force de profusion, la pléthore engendre l'ennui parfois, non?
L'impression que j'ai en écoutant cette définition, c'est qu'elle ne me correspond pas. Parce que je me suis beaucoup ennuyé, je m'ennuie moins, mais je me surveille, je me soigne. Le principe de mon ennui repose sur la prévisibilité systématique et répétitive de certaines choses. Alors là, pour moi, c'est quelque chose de rédhibitoire. Parce que, pour autant que je les vois venir, si je ne peux pas les éviter, j'ai à gérer un temps qui réellement m'ennuie.
Ouais.
Alors, je m'ennuie, et ça m'ennuie.
Donc c'est l'imprévu À l'opposé, l'imprévu est...
pas nécessairement, c'est le remède. Pas nécessairement un imprévu événementiel. Je ne m'attends pas dans la traversée de la vie que je fais d'être surpris à tous les instants, émerveillé. Mais je souhaite être mobilisé à tous les instants sur quelque chose qui me prend au cœur, à l'esprit, au corps. Voilà. Et si ça ne se fait pas, j'ai des problèmes.
Dans l'ennui, il y a aussi un rapport au temps. Hein. La pesanteur du temps est particulièrement lourde, si je puis dire. Pourquoi ? Parce qu'il se passe quelque chose, ce quelque chose pouvant être du rien, je le reçois avec une sensation et j'ai un sentiment. L'ennui, c'est d'abord avant tout un sentiment. Et le sentiment, comme la majorité des sentiments, sont associés à quelque chose de positif ou négatif, c'est-à-dire à une valeur positive ou une valeur négative. Or, dans la grande majorité des cas, l'ennui est associé à une valeur négative. Hein. Alors, on pourra y revenir parce que je ne suis pas sûr que ça soit aussi simple que ça. Hein. Mais disons, le point de départ, c'est voilà, quand un enfant dit « je m'ennuie », en gros, le parent, il va se sentir un petit peu agacé par cet ennui et il va essayer de lui trouver quelque chose à faire pour remplir cet ennui. Comme si là, c'était presque une souffrance, une blessure.
Ça peut être une souffrance. J'ai un souvenir d'enfance à l'âge de 10 ans d'avoir souffert une après-midi entière de l'ennui jusqu'aux larmes et presque jusqu'à la terreur. Comme quoi, ça peut effectivement être quelque chose de particulièrement angoissant, non ?
Oui, je pense que ça vaudra le coup qu'on y revienne peut-être un petit peu plus tard sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes quand on s'ennuie.
Je ne sais pas, je voudrais revenir sur la monotonie ou la diversité. Est-ce que ça a des liens avec l'ennui ? Je me demande. En fait, je pense que c'est plus une question subjective que quelque chose qui a un rapport avec ce qui se passe à l'extérieur autour de nous. Parce que, je prends un exemple personnel aussi, pendant de très nombreuses années, courir m'ennuyait. Aujourd'hui, dès que j'ai une heure, je me dis, j'irai bien courir. Bon. Et ça ne m'ennuie plus. Et pourtant, il s'agit de la même activité, de la même chose. Je pense que c'est vraiment une position
qui est
très
subjective.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si j'ai lu un livre, un très bon livre, évidemment, qui s'appelle « Courir », de Jean Echenoz, qui est une biographie, enfin une fausse biographie de Zatopek, qui est un grand quoi. C'est un formidable livre, voilà, un très très beau livre, donc je vous le conseille tous au passage, à tous au passage, mais bon. Donc il s'est passé ça, il s'est passé que j'ai lu ce livre et que ça a changé ma position par rapport à ce même objet qui était la course.
Juste ce que je voulais dire c'est dans ce sens-là, c'est qu'on voit bien que l'ennui est éminemment subjectif.
Oui.
C'est une condition du sujet. Voilà. Oui, parce qu'il y a des choses qui vont passionner un individu et ennuyer profondément l'autre. Mais comment tu peux faire arriver à être comme ça ? Moi, je m'ennuierais à mourir comme un rat mort. D'ailleurs, il y a de la mort dans la perception émotionnelle de l'ennui.
Oui, c'est comme une... C'est en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est évidemment une position du sujet, c'est vraiment une situation intérieure qui a un rapport probablement au désir. C'est-à-dire que c'est de tout d'un coup... pour reprendre l'exemple de la course est devenue d'un coup d'un seul un objet de désir, en quelque sorte, pour le dire de manière très, très, très large et rapide. Hein. Alors que ce même objet, pour quelqu'un d'autre, ou pour moi, avant, c'est-à-dire peut-être quelqu'un d'autre aussi, finalement... c'était un objet d'ennui. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun désir qui pouvait, pour moi, enrober cet objet, entourer cet objet.
Voilà. Alors, sans faire de psychanalyse sauvage dont je suis incapable, mais ça veut dire que, par rapport à cet exemple que tu nous donnes, c'est un rapport à toi qui a changé ou c'est un rapport au monde extérieur qui t'a incité à...
C'est plutôt un rapport subjectif, donc qui
mais
m'est
par
propre,
à toi,
mais par rapport à quelque chose d'extérieur.
D'extérieur.
En l'occurrence, c'était ça, oui.
Voilà.
Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec Blaise Pascal pour dire que finalement, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour échapper à l'ennui ? Est-ce que ça fait partie de la condition humaine ? Est-ce que ce n'est pas lié à la conscience de soi, tout simplement ? Dès qu'on prend conscience de soi, eh ben, on commence à s'ennuyer.
Alors, il y a une autre petite phrase, je ne sais pas si vous l'avez citée en introduction de Pascal, qui dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans sa chambre. Hein? » Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire rester dans son lit à rien faire. Ça veut dire rester en repos dans sa chambre. En tout cas, moi, je l'entends comme être en relation avec soi-même. Donc, ce qui me semble, c'est que dans ce que tu disais, Olivier, il y avait probablement quelque chose qui avait changé dans la relation avec moi-même, et cette relation étant juste médiatisée par la course. La course, moi, par exemple, je cours tous les jours, sauf le jeudi parce que je travaille à l'hôpital, mais je cours tous les jours 5 km. Et j'allais dire, je ne suis pas sûr d'en avoir toujours très, très envie, mais c'est sûr que je ne m'ennuie jamais. C'est une sorte d'expérience sensorielle et émotionnelle. Et j'ai vraiment du plaisir à ça. Donc, il me semble que, pour continuer un petit peu le fil, je pense que ça vaut vraiment le coup de revenir à la question du désir. C'est, à mon avis, l'idée fondamentale que tu disais, Olivier.
Oui,
du côté du désir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est du désir ? Et moi, j'entendrais bien que dans l'ennui, c'est le désir qui est en panne.
Oui. Et pourtant, si on prend le bouddhisme, par exemple, Bouddha, au contraire, rapproche le désir de la douleur, du mal, et que l'extinction du désir, c'est le nirvana. Est-ce qu'on peut le comprendre, ça, nous,
mais
occidentaux ?
C'est ça. Je pense que c'est peut-être pas de la même chose dont il s'agit, en fait. Ouais. Ça me paraît compliqué toujours de faire un saut comme ça dans une culture fondamentalement différente, parce que bien sûr que nous sommes tous des êtres humains, on a tous une psyché, on est tous à peu près fabriqués de la même manière, mais y a quand même des grandes scènes culturelles qui nous entourent, dans lesquelles on baigne complètement, qui font que parfois un terme comme ça, transposé d'une culture à l'autre, est un faux ami, en quelque sorte. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'on puisse comparer ce dont on parle là, l'ennui, comme extinction du désir, avec l'articulation ou la dialectique bouddhiste entre, justement, cette espèce de zen, de sagesse, de ne rien attendre, et d'un désir qui ne s'articulerait pas exactement de la même manière. Je ne suis pas certain que ce soit strictement comparable, enfin.
Moi, j'aurais envie, quitte à dire des bêtises, que dans ce que j'ai pu comprendre de ce retrait du désir, c'est un rapport du désir par rapport à l'objet. Donc, évidemment, si on est frustré de l'objet, on va être malheureux toute sa vie, parce qu'on voudra toujours l'objet de plus. Et la société marchande fonctionne là-dessus, en nous proposant toujours un objet de plus. Donc, en effet, probablement, pour arrêter cette souffrance de manque d'objet, il faut arrêter de désirer l'objet. Mais à mon avis, ce n'est pas désirer. Désirer, c'est être en vie.
Oui,
voilà,
c'est
être en vie.
Vouloir vivre.
Voilà, vouloir vivre et puis vouloir donner du sens. Voilà, vouloir donner du sens. Enfin, pour moi, ce qui fait de la vie, c'est ce qui donne du sens. Et ce qui donne du sens, ça fait de la vie aussi. Donc, il me semble que ce désir, comme désir d'exister, il n'y a pas de raison que ça cède. Hein.
Alors oui, c'est très juste ça, parce que je pense que justement, l'objet extérieur n'est, par exemple, dans une société d'hyperconsommation, n'est que l'occasion de l'expression du désir,
oui.
Et parfois le piège même du désir, même qui confine à l'addiction parfois. Mais je pense que peut-être d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'un objet désirable, mais pas forcément un objet matériel, dans l'attitude du zen bouddhiste.
Ah oui, par exemple.
Sans doute.
Oui. Un moine zen qui s'assied en face d'un mur, ce sont des séances qui durent parfois toute une journée, ne s'ennuie jamais, il est pourtant inoccupé, au sens où son corps ne participe pas de...
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que l'apparence d'inertie, l'inertie apparente en tout cas d'un individu, ne présume absolument pas du fait qu'il s'ennuie ou pas. Il se passe à ce moment-là quelque chose non accessible, mais qui est de l'ordre. Alors, du sens, sans doute qu'il y en a. Je cautionne complètement cette perspective, mais dans l'ennui, paradoxalement, on est en panne de faire fonctionner notre pensée sur de la raison. On pourrait se trouver de très bonnes raisons de ne pas s'ennuyer, mais on s'ennuie quand même. Donc du coup, le principe est moins de donner du sens que d'être capable d'en fixer l'intérêt. D'en fixer l'intérêt. Voilà. Pour moi, c'est différent. Le sens n'est pas absent, même dans l'ennui.
Pour revenir à un tout petit mot, puis après je vais reprendre peut-être ce que tu disais, Gabriel, pour revenir à la société de consommation, on pourrait dire que la société de consommation a malheureusement saturé notre espace du désir, sauf que ça l'a saturé du côté du désir d'objet. Et les gens se sont illusionnés en se disant, si je suis rempli d'objets, mon désir va être saturé. Et évidemment, c'est une erreur, parce que c'est pas ça qui remplit et qui fait une existence.
Oui, je peux me permettre juste de faire une petite parenthèse dans ce que tu dis, puis je te laisse continuer après, mais parce que je crois que ce qu'on a oublié de préciser, c'est que l'objet dont on parle depuis tout à l'heure est un objet psychique d'abord et avant tout. C'est-à-dire qu'il peut être porté, supporté par un objet matériel, mais pas forcément matériel. Et effectivement, nous sommes dans une société extrêmement matérialiste qui ne propose comme objet que des objets matériels, ou presque. Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec l'objet que peut-être le moine bouddhiste, le moine zen, cherche à atteindre. C'est un objet psychique qui est relatif à lui, qui est relatif à un état du corps, enfin, comme ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, avec la course à pied, en fait, par exemple.
Oui, et puis moi je dirais que la caractéristique de l'objet, c'est qu'on n'est pas avec l'objet dans une relation d'altérité. C'est ça la différence entre l'objet et le sujet. Hein. Si je considère, je ne sais pas trop quoi, mon collègue comme un sbire, pour moi, voilà, je le considère comme un objet. C'est une personne, mais je le considère comme un objet. Hein. Tandis que dans le rapport au sujet, c'est qu'il y a une altérité. C'est-à-dire qu'il ne va pas être comme j'aimerais qu'il soit. C'est ça la différence, il me semble, entre l'objet et le sujet. Donc je pense que Olivier, tu as raison de bien préciser ce qu'un objet. Ce n'est pas juste l'iPhone 26, c'est ça. Mais c'est aussi, de temps en temps, tous les autres qu'on considère comme des objets. Et moi, j'avais envie de revenir sur une chose, et ça, c'est ce que tu disais, Gabriel, qui me faisait penser. C'est que même si moi j'aurais envie de garder cette dimension de l'ennui comme étant une panne du désir, dans ma perception peut-être un petit peu optimiste mais que j'ai envie de revendiquer, je le verrais comme une sorte de faille, comme une espèce d'attente. Voilà. Et j'aime bien ce côté jachère de l'ennui,
oui,
voilà, où il y a quelque chose qui est en attente et qui vient nous faire souffrir, pas pour nous faire souffrir, mais pour nous appeler à quelque chose. Donc, voilà, mon fils ou ma fille, tu t'ennuies, qu'est-ce qui t'appelle ? Voilà, qu'est-ce qui t'appelle ? Il y a quelque chose qui t'appelle et tu ne sais pas quoi. Dans cet ennui qui est perçu comme une faille, il y a un appel. Voilà, moi, c'est ça qui me semblerait intéressant. Et j'avais remarqué dans mes petites notes que, je ne sais plus trop quoi, voilà, Lamartine, en juillet 1847, je vous relis mon petit bout de papier, avait écrit « La France s'ennuie » et 6 mois plus tard, ouais, ce sont les
68.
1848 d'abord, mais... pour Lamartine. Et il s'est passé ensuite la même chose, puisque Vianson-Ponté écrit en mars 68, 1968, « La France s'ennuie » et 2 mois plus tard, c'est mai 68. Ouais. Comme si, au fond, l'ennui pouvait être quelque chose, une espèce de, en effet, de panne du désir, mais qui serait là comme une attente, ouais, avec « il y a de la vie, il y a la vie qui va jaillir ouais. », et qu'au creux de la faille, il y a cet appel.
Alors, je pense à la vie.
Il y a de la gie.
Oui, c'était pas mal. Merci.
Tout à l'heure, on parlait en préparant de l'émission, mais tout autre chose, de Jean-Yves Leloup, ce prêtre orthodoxe qui a écrit de nombreux ouvrages de spiritualité. Un de ses livres s'intitule « Manque et plénitude oui. », expliquant que pour obtenir la plénitude, enfin, pour recevoir plutôt que d'obtenir la plénitude, il faut d'abord avoir creusé en soi un manque.
Bien sûr.
Et avoir l'envie de rien, effectivement, est comme un appel vers l'ailleurs. On peut le ressentir. Ce n'est pas forcément une souffrance. Est-ce que certains écrivains ont dit des choses intéressantes sur l'ennui, Olivier ?
Oui, ça, c'est même très très présent, mais je peux peut-être lire mon petit texte.
Bah, par exemple.
C'est l'invitation, d'accord, ok. Mais bon, je vais vous dire, j'y ai pensé, je veux dire à ne rien vous dire, à tenter de vous ennuyer. Puis je me suis dit que, si ça se trouve, vous parlant, je vous ennuie tout autant, voire plus. Que ça ne vaille pas grand-chose. Mais mes camarades de l'émission m'auraient fait des ennuis, et là, ça ferait trop. Entre pas assez et trop, on a la différence du singulier au pluriel, de l'ennui aux ennuis. Gardons qu'à ne pas trop en faire. Parce que l'étranger de Camus, perdant d'emblée son objet d'amour, je cite aujourd'hui « Maman est morte », Céline Kipit, hein, du roman, les premiers mots. Il va occuper le vide ainsi créé en se mettant dans les pires ennuis. Comme s'il ne savait plus quoi faire de son désir, tout libéré d'un coup d'un seul, il s'en bat, et c'est bien trop. L'ennui de Moravia, à l'inverse, c'est que le héros, dandy et peintre raté, n'a pour objet de désir que son modèle, qui ne lui plaît pas vraiment, qui n'est pas assez puisqu'elle n'est pas tout pour lui. Mais comme elle n'est pas tout à lui, il y en a un autre, ça lui plaît mieux. Un autre la désire, il y a donc du désir. Fini l'ennui. Bien sûr, les ennuis commencent là. L'ennui et les ennuis seraient les deux bornes d'un désir raisonnable, d'un désir dont l'objet ne serait ni trop, ni trop peu, un objet sans passion, un désir sans risque, une Madame Bovary qui aimerait son mari, et que le mari comblerait. Une Madame Bovary qui nous ennuierait, qui ne ferait pas un roman. Alors Flaubert lui fait des ennuis. Et c'est vraiment très beau. Quoique de nos jours un peu ennuyeux. C'est que les ennuis de Madame Bovary sont des peccadilles au XXIe siècle. On quitterait son mari aujourd'hui, on irait s'installer à Paris, on prendrait des amants à la pelle. Il n'y a qu'à lire « Amour » de Léonore de Recondo, où c'est Madame qui part avec la bonne, vivre quelques folles nuits parisiennes à la belle époque, seulement quelques décennies après le suicide de Emma Bovary. Elles auront aussi beaucoup d'ennuis, ce qui évitera au lecteur de s'ennuyer. Voilà.
Récapitulons, L'étranger de Camus, hein, ce qu'il faut lire, oui. L'étranger de Camus, L'ennui de Moravia, oui. Madame Bovary, bien sûr, de Flaubert, et Amour, au pluriel, ah oui, de Léonore de Recondo.
Absolument.
Merci, Olivier. Des livres qu'on trouvera, évidemment, à l'Espermette.
Forcément.
Alors moi, je rebondis sur ce que tu viens de lire et qui m'a beaucoup plu. Hein. Je trouve que c'est...
C'est vrai, c'est super.
C'est super. Je rebondis sur une formulation qui, pour moi, est dans le prolongement de ce sur quoi nous avions abouti. C'est-à-dire, en fait, tout libérer. L'ennui nous pousse éventuellement à tout lâcher, tout libérer. Et c'est bien trop. Et c'est bien trop. C'est-à-dire que là, on pose la problématique, non pas au point tel qu'on on pouvait l'imaginer, d'un ennui anodin, un ennui personnel qui ne concerne que nous, mais un ennui qui s'ouvre sur un potentiel de danger, non seulement pour soi, mais pour les autres. Voilà. Et ça, j'y suis extrêmement sensible. Parce que, en tout cas, personnellement, je suis passé à côté de ça.
Tu peux développer un peu
On est en rupture. À un moment donné, alors on va l'appeler de sens, de capture de sens, de vide. On a un certain nombre de ressentiments qui font que ça s'arrête. Ça s'arrête et... On se voit s'arrêter. Lorsqu'on se voit s'arrêter, c'est insupportable. Parce que on se pose la question du temps, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on se pose aussi la question de sa propre identité, de sa propre présence par rapport à ce sentiment qui finalement nous vide de notre consistance.
C'est la dissociation, ça, non ? Non ? Parce que ça ressemble pas un peu à la dissociation ? Non.
Non, parce qu'on reste, toujours. On reste parfois, collé oui, à ce qu'on est quand même. On reste collé à ce qu'on est. Oui. Mais c'est la part de ce qui finalement nous énerve en nous qui reprend le dessus sur la part raisonnable ou raisonnée, je ne sais pas. Et du coup, c'est un acte de rébellion que de sortir de l'ennui. Parce que ça peut l'être en tout cas. C'est un acte de refus d'une réalité à vivre en tant que telle. Alors, je reviens encore à ce qui a été dit tout à l'heure, les parents qui sont catastrophés de voir les enfants qui se... Mais il y a un enjeu de projection, de compréhension de ce qui l'ennuie. Et comme chacun vit l'ennui à sa façon... Cette projection, pour autant qu'elle puisse effectivement se comprendre, n'est pas toujours la plus pertinente qu'il faut. On peut y voir quelque chose de nuisible, négatif, qui va, et c'est possible, puisque je le disais précédemment, quelqu'un s'y s'ennuie, en tout cas moi je l'ai été dans ce sens-là, je pouvais faire n'importe quoi. Et je l'ai fait.
Parce qu'il s'agissait de tuer l'ennui, quoi. Et en voulant tuer l'ennui, on risque sa vie, c'est ça que tu veux dire au fond ?
On risque sa vie, on risque aussi, on n'a plus, je dirais, la cohérence du tissu je dirais, qui nous porte habituellement, où effectivement tous les équilibres s'interfacent. Là, on n'est plus dans l'équilibre, on est dans la sustentation, on est en suspension dans un état, finalement, qui nous insupporte. Comment en sortir ?
En tout cas, dans ce que je peux en percevoir, moi, du coup, ça me donne à penser que, à l'enfant, mais quand je dis l'enfant, je ne sais pas pourquoi je reviens sur l'enfant, parce que, bon, mais à l'enfant qui dirait « je m'ennuie », peut-être une des réponses, ça serait de lui dire « comment puis-je t'aider pour t'aider à te trouver ?» Un peu dans la ligne de ce que tu dis, Gabriella, c'est-à-dire qu'il y aurait cette dimension-là de l'ennui qui serait comme un espace en jachère, où au fond, il s'agirait peut-être... de laisser advenir quelque chose. Hein? On est en train, là, il me semble, de réfléchir au côté lumineux de l'ennui, finalement. Oui. Hein? Voilà.
On s'ennuie tant qu'on ne s'est pas trouvé, finalement. On ne s'est pas rencontré,
soi. Peut-être, oui. Il me semble que quand le désir est là, on ne s'ennuie pas.
Oui.
Le désir, il n'est pas toujours juste. Hein? De temps en temps, on a un désir d'objet, ou de temps en temps, on a un désir à côté de soi-même. Mais on ne s'ennuie pas, au moins.
Quand on ne s'est pas trouvé... ou quand on s'est mal construit sur un pan de notre personnalité qui est en porte-à-faux ou en douleur par rapport à certaines choses.
Uh-huh. Enfin, pour moi.
Est-ce que l'ennui ne surgit pas de circonstances aussi historiques, que ce soit la grande ou histoire ou la petite? Enfin, tout à l'heure, on parlait de la France s'ennuie. Vient s'en pointer dans le monde, je crois, c'est ça. Et puis, quelques mois plus tard, la révolution de mai 68, ou des circonstances personnelles, le chômage, par exemple, la retraite, la bruine, il ne fait pas beau dehors, etc. Il y a toutes sortes de sources d'ennui, finalement.
Ouais, je ne sais pas justement si ce sont vraiment des sources d'ennui, en fait, ça. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que là, ce sont des objets identifiés, qu'on peut nommer, qui peuvent nous ennuyer plutôt au sens, justement, où je reprendrai ce que Dominique disait au tout début de l'émission, où ça nous emmerde. Mais ce n'est pas de l'ennui au sens de la vacuité ou au sens de...
Le chômage peut l'être. Le chômage peut l'être.
C'est très ennuyeux. Ouais. C'est très ennuyeux, mais pour plein de raisons aussi. Les conséquences sont ennuyeuses. C'est-à-dire que là, on a des ennuis, en fait. On a des ennuis ou on est ennuyé par quelque chose. C'est pas forcément. En fait, il y a des différences sémantiques très importantes entre les différentes occurrences du terme ennui. Parce que l'ennui un peu morbide, celui où on n'a rien à faire, on voudrait quelque chose à faire, etc., celui de l'enfance, par exemple, n'a rien à voir avec les ennuis d'argent qu'on peut avoir ou le fait que le mauvais temps. Nous ennuie, c'est vraiment totalement différent comme acception. C'est même assez curieux, il faudrait peut-être réfléchir à la raison pour laquelle le même terme, en tout cas en français, désigne ces différents éléments. Parce que dans d'autres langues, c'est pas du tout le même terme qui sert à désigner l'ennui vacuité, l'ennui vide, de l'ennui, quelque chose qui nous embarrasse, etc. etc. quoi. Mmh. Il peut y avoir des termes très très différents. Par exemple, le verbe to bore en anglais ne signifie que l'ennui vacuité, à ma connaissance, mais pas du tout les emmerdes, quoi, par exemple.
Donc, alors, est-ce qu'il n'y a quand même pas des périodes ou des moments où on s'ennuie davantage, des périodes historiques, je veux dire, ou liées... Lié par exemple, je pensais tout à l'heure, Gabriel parlait de l'ennui qui est consécutif de la répétition, des choses, des événements ou des gestes. Est-ce que par exemple le travail, la taylorisation du travail au début du XXe siècle n'a pas introduit l'ennui dans le monde du travail finalement, par exemple?
En tout cas, le fait par exemple pour un travailleur de ne pas s'investir en tant que personne, c'est probablement une des causes les principale de souffrance au travail, sûrement. Hein. Donc là, en effet, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on s'ennuie? Oui, probablement. Sur le fond, on s'ennuie, peut-être même si on ne le sait pas. Parce qu'on n'investit pas quelque chose de soi-même, puis parce que probablement, ça n'a pas de sens. Hein.
Georges Navel, un autre écrivain qui est un écrivain travailleur dans Travaux, évoque ça, justement, puisqu'il a connu, lui... Il a connu tous les travaux possibles, les travaux saisonniers, mais le travail en usine à l'époque où c'était le début de l'automatisation parlait bien d'ennui et que l'engagement politique, justement, était absolument nécessaire pour combattre cet ennui. Quoi.
Depuis tout à l'heure, tu nous amènes sur le terrain très sur le terrain social, enfin sur le terrain collectif.
Je t'ennuie, c'est ça?
Non, pas du tout. Mais je me pose la question, parce qu'en fait, je n'avais pas du tout envisagé cet aspect-là des choses, mais effectivement, vous citez, toi Christophe, toi Dominique, des choses autour de la France s'ennuie, etc. Et c'est vrai qu'on a, on a beaucoup dit, dans les années qui nous précèdent, juste là, que, par exemple, la politique était relativement ennuyeuse. Je crois que ça s'est arrêté. On a arrêté de dire ça au moment de la campagne présidentielle de 2017, qui était une vraie série télévisée à suspense. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit on s'ennuie, il ne se passe rien, c'est toujours la même chose. Enfin, qu'on vote pour l'un ou pour l'autre, finalement, ça ne change rien. Ça ne change rien. Est-ce que le fait que rien ne change, par exemple, puisse être sur une grande scène comme ça, collective, considérée comme un ennui, sans doute, parce que c'est comme une panne de l'histoire. Hein. C'est comme si on faisait du surplace. C'est comme si il n'y avait plus vraiment d'avenir, de dessin, plus d'espoir, voilà, plus d'envie, quoi. Plus d'objets désirables sur ce champ-là collectif. Par exemple, les hommes politiques disent souvent il faut désirer la France. Quoi. Pour être élu, il faut désirer la France. Ce qui est peut-être quelque chose de très proche de ce qu'on peut vivre sur le plan individuel. Mais en même temps, effectivement, on s'est beaucoup ennuyé, probablement, politiquement, dans les années qui ont précédé. Et ce qui se passe depuis quelques mois, une rupture de l'ennui, à nouveau. Quoi. Je pense évidemment aux Gilets jaunes. Quoi.
Ouais. Est-ce que ça n'explique pas le fait qu'on puisse partir la fleur au fusil s'il y a la guerre? Certains ont écrit ça, que finalement, les gens, les paysans ou les ouvriers voyaient là l'occasion d'une rupture dans le temps ordinaire, finalement.
Je ne pense pas qu'on puisse justifier d'un principe de faire la guerre sur un principe d'ennui.
Non.
Mais, c'est ce que raconte L'Étranger, d'une certaine façon, de Camus, justement. Hein.
Oui.
Sauf que c'est une personne, là, pour le coup, mais...
Dans Un roi sans divertissement de Giono, c'est pareil.
C'est pareil.
Moi, je me souviens très, très bien quand j'ai lu ce livre. D'abord, on s'ennuie, parce que dans le souvenir que j'en ai, c'est toujours l'hiver, dans les montagnes, il fait froid, on se gèle. Moi, je suis un frileux. Rien que dans le lisant, je remettais trois pulls avant de commencer le livre. Et puis, on s'ennuie. Et puis, ça aboutit à un moment où, pour se désennuyer, il y a un crime, quoi. Et en ce moment, on respire. J'ai dû enlever 4 pulls, là, à ce moment-là, parce qu'il y avait un crime, quoi. Non, mais c'est terrible. Donc, ça renvoie quand même à quelque chose. Alors, il y a la notion de la nouveauté, quand même, qui est quelque chose d'important.
Alors, cette nouveauté
et ce désir de nouveauté, c'est extrêmement tôt, parce que l'enfant, vous savez, les petits-enfants, les petits, ils ont 3, 4, 5, 6 mois. Dès qu'on arrive à repérer là où ils posent leur regard, on leur montre des images et on voit que extrêmement rapidement, les images qu'ils ont déjà engrangées dans leur mémoire, ils n'ont pourtant pas de mémoire parce qu'il faut quand même souvent du langage, et bien ils y restent 50 ou 100 millisecondes. Et ils vont passer sur, et ils vont rester 500 millisecondes ou une seconde ou deux secondes sur une image qu'ils ne connaissent pas. Hein. Donc ce désir de curiosité, cette curiosité, donc ce désir du côté du nouveau, il est engrammé à l'intérieur de nous-mêmes de manière phylogénétique et probablement depuis très 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 longtemps. Hein.
Mais on peut aussi parfois préférer l'ennui à la nouveauté, par peur de la nouveauté aussi.
Je ne sais pas si à ce moment-là...
Ou en tout cas la monotonie, plutôt que l'ennui.
Parce que toute nouveauté est associée au désir, à un plaisir potentiel, mais à un peu d'angoisse. Oui. Toujours un peu d'angoisse. Dans la nouveauté, dans le changement, il y a toujours un peu d'angoisse. Donc on essaye de tenir les deux entre eux. J'ai l'attrait du nouveau, et puis j'ai un petit peu peur qu'il y ait quelque chose de nouveau.
C'est clair. Hein. Je trouve que on est sur plongé dans l'inconnu pour trouver du nouveau. On y est. Mais c'est une façon, je pense alors là, vraiment très humaine, de définir une posture quasiment sous-jacente en permanence chez l'individu et qui a été super bien utilisée par tout le marketing et par toute la société qui nous pousse à effectivement ne plus nous ennuyer en consommant.
les enfants s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient en knickerbocker ou en robe blanche. Le dimanche, les enfants s'ennuient. Que ce soit promenade ou tartine, pâtissier, pas plus que les bois, n'auront de succès. Gamins et gamines sont plus tristes que maman ne croit. Vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. À travers les rues sans rien dire, on parcourt la ville sans fin. Y a que les mannequins qui font des sourires aux vitrines des grands magasins. Vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit. Les parents s'ennuient le dimanche. Le dimanche, les parents s'ennuient avec leur faux col, leur lorgnon et leur barbe blanche. Le dimanche, les parents s'ennuient. Vienne la semaine, lundi, mardi, jeudi, car la rue est toujours pleine de lumière et de bruit.
J'écouterais bien une petite histoire, moi, je sais pas vous, mais histoire de nous désennuyer.
Alors, celle-là, elle m'a coûté vraiment très cher. Non pas qu'elle m'a ennuyé, mais vraiment, j'ai été piégé par le thème. Alors, je l'ai appelé l'empire du non-sens.
Tu vas pas trop vite, hein, Gabriel, hein, parce que faut qu'on ait bien le temps de l'écouter.
Faut qu'on savoure.
Ouais. Peut-être qu'on ait un tout petit peu, presque le temps de s'ennuyer pour que ça nous laisse un petite vacuité, un tout petit peu douloureuse ou agaçante.
Bon, l'émission se terminera demain.
Ça s'agit dans la régie.
Les vagues silencieuses des ombres de la rue défilent au plafond. Personne dans la maison. Personne pour s'amuser avec moi. S'amuser. Ah, de l'ennui partout. Le monde m'abandonne. Une fourmi explore ma caisse à jouer. Veut-elle y trouver un jeu de société ? Je l'enferme dans l'empilement de mes voitures métalliques. Ça l'occupera. Mes jouets, je les connais par cœur. Ils ne me tentent plus. Ranger le bazar de la chambre. Et après, aucun intérêt. Qu'en dis-tu, horrible poupon de ma sœur ? Que fais-tu dans ma chambre ? Sais-tu que je te déteste avec tes yeux dévissés qui me regardent jamais en face? Vieux schnock, je vais opérer ton origine du monde, ton nombril. Le mien a une drôle de tête. Prends cette grimace, miroir qui me regarde.
Miroir, au grand miroir, est-ce que le monde a peur lorsque je sors ma langue et que je la regarde sans passer par toi?
Bof, ce n'est que dans les contes de fées que le miroir daigne répondre. Mon arc et une flèche, tiens, prends ma colère dans ta tronche. Bon, ce baigneur, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Il n'y a rien derrière son bille dans celluloïde. Mais je m'en fiche. Il faut bien passer le temps. Bistouri, un couteau de cuisine. On se passera des compresses et des pansements. Tu as peur, Oscar. Mais on ne peut vraiment pas te laisser avec ses yeux en chasse-neige. Zut! Son ventre s'est complètement enfoncé. Mon vieux, maintenant il va falloir que tu disparaisses de la circulation. Je ne serai au courant de rien. Je te chercherai avec eux. Disparition. L'enfouir dans la poubelle? Non, ce machin va dépasser du sac. Le jeter par la fenêtre? On pourrait te voir, et puis s'il atterrit sur quelqu'un, ça pourrait finir mal. Et on découvrirait tout. Un petit feu dans la cheminée de l'appartement. Après, je rebaisse le rideau de fer et aucune trace, ni vue, ni connue. Vite, l'allume-feu avant qu'il revienne. Oscar, ma sœur te regrettera, je le sais. Oh, la fumée. Oh, j'aillerai si ça sent trop. Waouh, ça flambe terrible ce truc. Il ne reste qu'une limace visqueuse toute noire. Personne ne se doutera que c'est les restes d'un baigneur. Maintenant, baissez le rideau. Oh là, ça coince. Mais tire, bon sang, un effort. Voilà. Et maintenant? L'armoire de la chambre des parents. On y va. Oh, que du linge. Pas intéressant du tout. La prendrez? Hey, ouais, ce serait une super cabine spatiale. Installation du cosmonaute au milieu des vêtements pendus. Ouah, ça pue la naphtaline là-dedans.
Quoi qu'on avait spationaute installé. Vapeur de kérosène incommodante. Oxygène très moyen. Prêt pour le départ. Sas fermé. Zéro contact avec l'extérieur.
Bon sang, mais ça m'incommode. Allez, on tient bon.
Cuillère allumée. Ok. 5, 4, 3, 2, 1.
C'est parti!
Vitesse affichée 25 000 km/h.
La chambre, le quartier, la ville deviennent un point minuscule. La France ressemble maintenant à une pièce de puzzle à travers le hublot d'une poche de manteau.
Cap Canaveral à mission Enduro. Cap Canaveral à mission Enduro. Succès de l'opération. Canaveral, je vous entends mal. Problème respiratoire. Cap Canaveral, Enduro, combinaison non étanche. Rien oublié sur Terre, Enduro? Si! Si, l'ennui! Et c'est vraiment pas plus mal! Yahoo!
On découvre un acteur aujourd'hui, un vrai acteur!
Ouais, il a fallu, autrement ça aurait été d'une platitude absolue!
Oui, il a commencé à me faire peur, hein, ton héros. Je crois que c'était naissance d'un psychopathe. Puis finalement, ça s'arrange un peu.
Mais vous voyez qu'on peut glisser vraiment sur un versant problématique.
Alors moi, j'avais envie de tenter, et puis j'espère que tu aurais avoir ta bénédiction amicale pour rappeler un petit peu la trame du récit et puis en faire une espèce de lecture comme ça, puisque tout le monde a bien compris qu'au départ, il y avait une fourmi. Et que cette fourmi, elle me faisait penser quand même à la cigale. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que cette cigale, elle pourrait nous renvoyer aux deux polarités qu'on a évoquées tout à l'heure à propos de l'ennui. La fourmi, c'est la besogneuse, c'est celle qui n'arrête pas. Puis la cigale, c'est celle qui se la coule douce. Et alors, on pourrait se demander si, au fond, elle se la coule douce parce qu'il y a l'autre partie d'elle-même fourmi qui bosse et qu'en gros, c'est une grosse glandeuse, ou alors que c'est celle qui sait jouir de la vie. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça viendrait dire que peut-être dans l'ennui, il n'y a pas que simplement une souffrance, il peut y avoir quelque chose d'un côté cigale. Alors ensuite, on a cette espèce de poupon dont on a un peu l'impression qu'il est une espèce de partie de soi. Et puis, comme il appartient à la sœur, j'avais envie de dire qu'il pouvait représenter quelque chose de la part féminine de notre héros, là. Hein. Et alors, on assiste évidemment à son meurtre, à son sacrifice, dans une espèce de mise en scène absolument terrifiante. J'espère qu'on ne va pas être censuré après, quand même, parce que quand même, c'était un peu difficile à vivre, en tout cas, il me semble.
J'ai longtemps hésité entre un chat et un poupon. J'ai préféré le poupon.
D'autant qu'après, les choses se compliquent, puisqu'on assiste à une espèce de crémation rituelle, comme ça, dont on se dit, voilà, et voilà quand même, il faut quand même mettre un tout petit peu de transcendance, j'oublie pas quand même dans quelle radio on est ici, et il faut un petit peu de transcendance après le meurtre, alors on ne sait pas si c'est pour faire disparaître toute trace du crime, ou pour essayer de sublimer un petit peu les choses, mais voilà. Et puis, à ce moment-là, on est complètement coincé, puisque finalement, il n'y a rien du tout, et la transcendance demandée, ben, elle n'arrive pas, quoi. On a l'impression que l'ennui est toujours là, la fourmi, elle bosse, et la cigale, elle glande, quoi, un maximum. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, évidemment, c'est ce qu'on fait en tout cas chez le psy, on va chercher chez les parents. Donc, on va fouiller dans l'armoire parentale, on vide les poches, on regarde ce qu'il y a derrière l'inconscient des parents, et puis, youp, c'est reparti, voilà, il suffit de s'envoyer en l'air.
Oh, quelle lecture psychanalytique extraordinaire!
À deux balles, j'avais prévenu.
Au fait, est-ce que l'ennui, tiens, je m'adresse à vous qui êtes tous les deux psychanalystes, relève de la névrose et le cas échéant, non pas du tout, on peut la soigner, au fait, c'est curable, l'ennui, avec des médicaments, une psychanalyse, des séances de psychothérapie, qu'est-ce que vous nous conseillez?
D'abord, on peut beaucoup s'ennuyer en psychanalyse aussi. Hein.
Ah oui. C'est le psychanalyste qui s'ennuie, non ?
Ah ouais, non, le patient peut s'ennuyer aussi. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver quand le patient se retrouve dans une situation où il n'a rien à dire. Souvent, on peut témoigner d'un certain ennui, oui. Un ennui à être là, un ennui à ne rien trouver à dire, etc. etc.
Ça arrive, alors.
Et je trouve que ça arrive relativement souvent. Moi, je dirais que ça m'arrive peut-être une ou deux fois par semaine auprès des analysants. Et à ce moment-là, à condition qu'on arrive à ouvrir quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus intéressant.
Il y a toujours quelque chose qui se passe dans ce silence-là. Ouais. Ouais,
justement, dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il peut y avoir autre chose, et en particulier du côté de l'être. Hein. Justement, je reviendrai bien sur l'histoire de celui qui est devant un mur... Et il ne fait rien. Mais le contraire de l'ennui, on y reviendra peut-être, c'est sûrement pas le faire. Hein. C'est quelque chose d'autre. Hein. Donc, il se passe quelque chose. Ça se passe, voilà. Donc, la réponse ou la défense contre l'ennui qui serait du côté du faire, c'est un tout petit aspect des choses et probablement pas la réponse essentielle.
Est-ce que ça a à voir parfois avec la dépression ?
Moi, j'aurais tendance à dire exactement la même chose du côté de la dépression. Pour moi, la dépression, c'est un moment où il y a lieu de reconsidérer sa modalité d'être au monde. Voilà. Quand on pense à une dépression atmosphérique, c'est-à-dire un système de basse pression, ben heureusement que de temps en temps, il y a des basses pressions, parce qu'il pleut, il fait froid, et on voit bien actuellement où c'est le printemps, où tout repart dans tous les sens. Ben heureusement qu'il y a eu, je ne sais pas s'il y en a eu assez, mais heureusement qu'il y a de la pluie, qu'il y a du froid, qu'il y a de la neige, des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est aussi un temps où quelque chose peut surgir.
Ce n'est pas qu'un mauvais moment à passer, au contraire, ça peut être...
Subjectivement, c'est souvent un mauvais moment à passer, c'est difficile, c'est douloureux, comme peut-être l'ennui d'ailleurs. Mais c'est un temps où, si on en fait quelque chose, et là, la phrase est importante, si on peut en faire quelque chose, alors, à mon avis, c'est une puissance d'éveil.
Oui, et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que, d'abord, on peut dire dépression, bon, et puis déprime. Souvent, on distingue comme ça le moment de la déprime, est plutôt un moment qui peut être fondateur d'autre chose ou refondateur de quelque chose, ça c'est sûr. Après, c'est par exemple, si on veut considérer l'ennui comme pathologique, c'est un peu ça l'idée. En soi, non. C'est ce qui est pathologique, éventuellement, c'est ce qui fait symptôme embarrassant, problématique, avec lequel on n'arrive plus à faire, etc. C'est quand on n'arrive plus à faire avec quelque chose. Mais la même chose avec laquelle on arrive à faire, dont on sait qu'elle va passer, par exemple, ou je sais pas... Bon, ça, c'est pas forcément... Il n'y a pas d'en soi pathologique de l'ennui, vraiment. Ni probablement seulement la version positive que tu disais, Dominique. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les deux sont possibles. Ouais, c'est ouais. Pas... Et puis après, on peut aussi dire autre chose. C'est que le symptôme n'est que quelque chose qui essaie de raconter une autre histoire qui justement n'est pas formulée, n'est pas élaborée, n'est pas construite, etc. Mmh. Donc le symptôme en soi peut-être qu'on peut le considérer comme pathologique, mais très souvent, il est aussi la voie par laquelle on peut avancer vers, justement, une manière d'aller mieux, quoi.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui, pour moi, me semble intéressant de regarder. C'est que il y a dans l'ennui et dans la liberté d'être dans l'ennui, parce qu'on a parlé de la contrainte que pouvait être l'ennui, mais on parlait tout à l'heure des travaux à la chaîne au niveau des premières industrialisations. Je pense qu'ils n'avaient pas le temps de s'ennuyer. Hein. Ils étaient asservis à un rythme de gestes et d'obligations qui faisaient que si effectivement ils partaient en dérive au niveau de l'imaginaire, c'est la machine de
Charlot,
voilà.
Chaplin.
Voilà,
c'est lui. Les temps modernes.
Non, il y a
une forme d'absence qui s'installe, non-présence à soi. Enfin, c'est ce que décrit Georges Navelle.
Oui, alors justement, pour rebondir sur ce que Gabriel vient de dire, je me souviens très bien avoir entendu un consultant, quelqu'un qui travaillait beaucoup pour la RATP, dire qu'il y avait quelque chose d'extrêmement difficile pour les conducteurs de métro, notamment, parce que les métros sont presque intégralement automatisés, surtout aux heures de pointe, de manière à ce qu'il n'y ait pas de retard pris, enfin voilà. Et par contre, le conducteur était absolument essentiel aussi parce que c'était le seul à pouvoir intervenir en cas de problème, quelqu'un qui se coince son sac dans une porte ou voire même pire, évidemment. Et que l'épreuve la plus grande pour les conducteurs était justement de rester totalement vigilant alors qu'ils n'avaient rien à faire.
Ça, tout à fait.
C'est quelque chose de très, très, très compliqué.
Et surtout que là, l'aspiration vers cet aiguillage, pour reprendre le terme ferroviaire, elle est très forte. On se voit ne rien faire. On se voit faire quelque chose dans les deux cas où on est pris par l'objet de l'activité. Et se voyant, on arrive à prendre la tangente, c'est-à-dire l'aiguillage, qui nous fait sortir de l'injonction d'être comme il faut être. Et cette injonction, c'est pour moi une liberté d'être. Et du coup, je me disais que derrière l'ennui, il y avait peut-être l'ombre d'une aspiration à l'absolu. C'est-à-dire quelque chose qui finalement nous tirait à ne plus vivre dans la norme, mais de s'affranchir, de tout lâcher et de sortir pour atteindre quelque chose de nouveau, justement, dans leur norme.
Et c'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à quelque chose qui rejoint aussi ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il nous emmenait sur le terrain politique. Parce que ton texte, Gabriel, tout à l'heure, mettait en scène, pour moi, un enfant assez jeune, et un enfant qui va rêver de conquête spatiale, c'est-à-dire qu'il va rêver d'un ailleurs, qui va ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est rêver, c'est-à-dire que l'enfant rêve son futur, c'est-à-dire que à partir du moment où il se projette comme ça sur la ligne du temps, il n'y a plus d'ennui. Et cette ligne du temps particulièrement attractive puisque c'est vraiment et je me souviens que on dit souvent dans l'histoire récente aussi le moment où de la conquête spatiale était un moment où on ne s'ennuyait pas. C'était quelque chose de fascinant. Il y avait par exemple une littérature extrêmement abondante de science-fiction, une littérature qui est éminemment politique du reste puisqu'elle raconte toujours ce qui se passe aujourd'hui au regard de en faisant semblant d'être plus loin dans le futur, mais une littérature qui était extrêmement positive la plupart du temps. Quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment des lendemains qui chantent. Des lendemains qui chantent et qui faisaient qu'aujourd'hui, n'avait pas d'ennui. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment rêver.
On pouvait se projeter.
Ouais. Et si on regarde aujourd'hui la littérature de science-fiction, elle est essentiellement post-apocalyptique. C'est-à-dire qu'il y a un danger terrible. Et qui n'est pas du tout positif, qu'on ne veut pas regarder, et ça nous ennuie beaucoup. Enfin, je veux dire, par exemple, ça nous ennuie à tel point qu'il y a même des élucubrations assez extraordinaires, d'un déni complet de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le rôle de l'être humain dans la dégradation des conditions de vie sur la planète, quoi. Et donc ça c'est en fait, ton texte me fait penser à ça. Je pense que c'est le rêve d'un enfant qui ne s'ennuie plus parce qu'il est justement c'est un enfant des années 60.
Mais est-ce que le sentiment d'une catastrophe imminente ne provoque pas non plus une excitation?
Si, sans doute, mais sombre.
Moi, je trouve que ce qui était intéressant... Moi, je reviens sur ta notion d'absolu. Moi, dans ce qui me venait, ça serait quelque chose qui serait au fond plus modeste, qui serait du côté de la créativité. C'est-à-dire, il y a quelque chose... Et au fond, finalement, qu'est-ce qui a fait que, pour rejoindre ce que tu disais, Olivier, qu'est-ce qui a fait, au fond, que cet enfant, on a un peu l'impression qu'il s'en sort et on est quand même content? C'est qu'il arrivait, qu'il a en effet inventé un texte. C'est-à-dire, à la place d'un vide douloureux, dans une espèce de tension où il n'arrivait pas à se retrouver entre la fourmi et la cigale, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé. Il a créé. Et il a créé ce roman. Ça aurait pu être un autre roman, mais l'important, c'est qu'il ait créé, finalement. Et ça n'avait pas d'importance qu'il retrouve une fusée ou qu'il ait joué aux billes ou qu'il soit transformé en prince charmant, chacun suivant l'époque, sa psychologie, etc., invente des tas de choses. Et avec sûrement une spécificité très singulière et personnelle. Mais je trouve que là, la réponse était la créativité.
Dieu s'ennuyait peut-être avant de créer le monde.
En tout cas, ça rejoint la notion d'altérité, je trouve. Hein, ce que tu dis là, parce que...
C'est dans la théologie, hein, d'ailleurs.
Dans la mystique rhénane, en tout cas, il y a cette sorte de déité qui, manifestement, s'emmerde comme c'est pas possible. Et alors, il y a après la suite qui est la divinité, et la divinité qui est avec sa création. C'est-à-dire, on est dans une relation, une altérité, et à mon avis, une rencontre.
Une dernière question, après on va rendre l'antenne, comme on disait autrefois. Est-ce que vous êtes arrivé, est-ce que vous vous souvenez d'un ennui, d'un moment où vous êtes ennuyé? Pas spécialement.
J'ai oublié.
Voilà, je vais remplacer par une autre question. Est-ce qu'il y a un exact contraire de l'ennui, en fait?
Moi, j'ai pas le sentiment de m'être ennuyé, et si j'essaye de me dire pourquoi je m'ennuie pas, j'aurais tendance à penser que c'est parce que je suis curieux de tellement de choses que de toute façon...
Le temps manque.
Le temps manque, comme ça. Mais en même temps, j'aime bien aussi avoir des moments où je ne suis ni dans l'action, ni dans la rencontre, ni dans l'écoute, ni dans la parole, ni dans l'apprentissage, mais où un peu il se passe rien, quoi. Il se passe rien parce que ça vaut, ça. Ça vaut. Il y a quelque chose comme ça. Et là, il me semble, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est de la pensée qui se retire, de l'émotion aussi qui se retire. Et en général, d'ailleurs, ce qui reste, c'est le corps.
Le monde de sensations, le monde flottant, disent les Japonais.
Du côté de l'ennui, je me souviens de moments d'ennui, mais alors, c'est des moments d'enfance essentiellement, et que j'associe assez systématiquement, je crois, à l'impatience. C'est-à-dire que je pense qu'on peut beaucoup s'ennuyer lorsqu'on sait que quelque chose va arriver, qu'on désire beaucoup et qui annule toute possibilité de désirer autre chose dans l'entretemps, en attendant que ça arrive.
Les filles
par exemple. Et je pense que, d'ailleurs, dans cette tendance qu'ont les enfants à s'ennuyer probablement beaucoup plus qu'à l'âge adulte, c'est peut-être cette histoire de flèche du temps, justement. Alors, la flèche du désir, pourquoi pas, mais l'enfant a beaucoup de temps devant lui, et donc il désire aussi parfois grandir. Il désire quelque chose plus tard, quoi. Et du coup, il ne reste rien, là, maintenant.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Émilie en régie technique. On se retrouve très prochainement pour une émission exceptionnelle. Est-ce qu'on peut, Olivier, annoncer le prochain rendez-vous?
On peut annoncer le prochain rendez-vous. Ça sera avec François Bégodeau.
Oui, dont on parle beaucoup.
Absolument. Et ça sera une autre de ses interventions médiatiques. Il en a eu beaucoup jusque-là. Il est très en colère.
Il a écrit un bouquin assez extraordinaire qui s'appelle...
L'histoire de ta bêtise. Chez Pauvert.
Alors donc, à dans 2 mois. Ne vous ennuyez pas trop d'ici là. À très bientôt.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi. Ce mortel ennui qui me tient et me suit pas à pas. Le jour où j'aurai assez d'estomac.